Alors depuis quelque temps, pour ceux qui restent en bas, je suis en train de suivre les fruits de l'esprit, dans Galates chapitre 22. Car les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Aujourd'hui, je vais vous parler de la fidélité. Et je pense que c'est un fruit qui est très important dans la parole de Dieu aussi. En fait, tous les fruits sont importants dans Galates chapitre 5, verset 22. Mais la fidélité a une notion dans la parole de Dieu de solidité, de confiance, digne de confiance, nous dit la parole de Dieu par rapport à ce mot de la fidélité. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand j'étais dans le sud de la France, un peu moins maintenant parce qu'on a du mal à les voir, mais ici dans la région parisienne, mais quand il fait beau, dans le sud de la France, on aimait bien s'allonger sur le sol et puis de regarder la nuit étoilée. Et dans cette nuit étoilée, eh bien, depuis des millénaires, ces étoiles existent dans le ciel et elles sont là pour certaines nous émerveiller, d'autres pour donner une direction. Entre autres, vous avez dans le ciel une étoile qui dirige les marins ou les pilotes d'avion ou même les voyageurs terrestres, c'est l'étoile polaire. Si vous la regardez dans le ciel, eh bien, elle est toujours là, l'étoile polaire. C'est-à-dire que quand il fait beau la nuit, eh bien, cette étoile, elle est toujours là. Elle fait partie de ce quotidien. Et quand vous regardez le ciel la nuit, eh bien, l'étoile polaire est là. Que à un moment donné, si vous savez plus où est le sud, le nord, l'ouest ou l'est, vous regardez l'étoile polaire et elle vous dirigera toujours dans la même direction. C'est une étoile à qui vous pouvez faire confiance, littéralement, parce qu'elle est toujours là. Dans le même ciel, dans le sud de la France, quand tout vous est étoilé, quand on peut les voir, vous avez ce qu'on appelle des étoiles filantes. Vous savez ce que c'est une étoile filante? C'est une étoile qui, quand on regarde le ciel, d'un coup vous voyez un petit trait rapide qui part d'un endroit à un autre, mais c'est une étoile qui est très jolie à voir, mais ça reste une étoile filante. C'est-à-dire que vous pouvez en voir une, deux, trois, mais ça reste quelque chose qui n'est pas régulier. C'est-à-dire que un marin ne peut pas se fier à une étoile filante. À un voyageur ici-bas sur cette terre, il peut attendre longtemps, surtout s'il est en Seine-et-Marne, de regarder une étoile filante, attendre pour lui donner une direction. Les étoiles filantes sont très jolies, elles sont belles, mais ce n'est pas comme l'étoile polaire qui est là régulièrement, qu'on peut la regarder dans le ciel. Dans la vie du croyant, le fruit de la fidélité est un fruit important. Pourquoi ? Parce qu'il manifeste loyauté et ténacité. Et je pense que ça doit nous donner une attitude en tant que chrétiens, aujourd'hui, comme les autres fruits, bien de les manifester dans notre quotidien. Selon certaines traductions, le mot fidélité peut être changé par foi. Et en hébreu, le mot foi ou fidélité a cette notion de tenir solidement, d'être solide, d'être digne de confiance. En hébreu, le mot est traduit par pistis, donc foi. Et vous avez cette idée de la fidélité que la parole nous donne, nous dit dans la parole, c'est-à-dire qu'un chrétien est appelé même le fidèle. Donc, dans cette idée de la fidélité, de la constance dans le Seigneur. Donc, le thème de la fidélité a une grande place dans la parole de Dieu. Moi, je voudrais juste dire en premièrement, que Dieu est un Dieu fidèle. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Deutéronome chapitre 7, verset 9, qui dit que Dieu est fidèle. Ça fait partie des attributs de Dieu. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 23, on nous dit que Dieu tient sa parole. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Et Paul va même encourager son ami Timothée en lui disant, si nous sommes, nous, infidèles, Dieu demeure fidèle. Ça fait partie de l'attribut de Dieu, sa fidélité. Nous pouvons nous dire en toute confiance, si nous nous sommes infidèles, Dieu lui demeure fidèle. La condition, c'est de rester attaché au sceptre, comme nous dit la parole de Dieu. Donc d'être attaché à la parole de Dieu. Alors nous avons des tas d'exemples dans la parole de Dieu, d'hommes et de femmes qui ont manifesté la fidélité. Vous avez par exemple la vie d'Abraham, la vie de Moïse, la vie de Lydie, Paul, Timothée, Tychique, Epaphras, Onésime, Sylvain, Antipas. Je vais arrêter là, parce que la liste est large et longue. On n'aurait pas le temps de prendre tous les passages pour parler, de montrer la fidélité de ces personnes-là. Mais la Bible aussi nous dit que la fidélité de Dieu nous assure une protection dans la tentation. Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, même avec la tentation, il prépare aussi les moyens d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Cela nous montre bien, n'est-ce pas, frères et sœurs, que nous pouvons faire confiance à Dieu dans nos moments difficiles, dans les moments, les plus sombres de notre vie. Nous pouvons faire confiance au Seigneur. Dieu demeure fidèle. C'est un bel attribut, n'est-ce pas? Et deux fois, on devrait s'en inspirer. Quand vous regardez dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on s'aperçoit que Dieu a manifesté sa fidélité avec la nation d'Israël. Tout le long de la Bible, Dieu a manifesté sa fidélité avec son alliance avec Israël. Du début jusqu'à la fin, la Bible nous dit même que malgré leur infidélité, Dieu a demeuré fidèle. C'est beau, n'est-ce pas, la fidélité de Dieu? Et combien nous devrions nous en inspirer de cette fidélité dans notre vie, avec notre conjoint, avec nos enfants, avec nos parents, avec notre employeur, avec peut-être, si le Seigneur vous permet, un employé, un ami, les gens que le Seigneur vous a mis autour. Dieu nous demande de manifester de la fidélité. On doit essayer de comprendre, n'est-ce pas, cette fidélité. Et je vous ai montré trois enfants, je leur ai proposé 2 euros chacun. Alors, peut-être qu'ils étaient dans une église. Je ne sais pas si je leur aurais posé cette même question à l'extérieur de l'église, si les réponses auraient été belles, aussi belles de celles qu'ils ont données. Sûrement, Dieu leur aurait. Les a poussés à manifester ce désir de faire ce qu'ils ont dit. Et il faut prier pour ces enfants que le Seigneur vraiment conserve dans leur esprit ce qu'ils ont dit. Mais franchement, si ce matin j'avais eu les poches pleines, au lieu de 2 euros, je vous aurais fait venir tout personnellement et je vous aurais proposé 1000 euros, que je vous aurais proposé 10 000 euros et que je vous les aurais donnés en cash, en liquide, là maintenant. Qu'est-ce que vous aurez fait de cet argent? Alors, je ne sais pas ce que vous avez dans votre tête. Si vous avez dans votre tête le désir de donner à l'Église, n'attendez pas que je vous les donne pour le donner. Parce qu'après vous, c'est ce que vous avez dans votre cœur qui compte. Et voyez-vous, la fidélité, c'est ça. Avec le Seigneur, c'est ce que nous avons dans notre cœur qui compte vis-à-vis de Dieu. Je pense qu'on aimerait tous entendre « C'est bien bon et fidèle serviteur ». Qu'est-ce que j'aimerais entendre cette parole le jour que je vais me présenter devant le Seigneur ? C'est bien, bon et fidèle serviteur. Je voudrais prendre dans la Bible ce matin un passage qui illustre la fidélité. C'est un passage qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 25, et c'est la parabole de la fidélité. Matthieu chapitre 25, et je vais lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 30. C'est les talents. La parabole du royaume de Dieu, quand il parle des talents. Il en sera comme un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et il leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 autres à l'autre, et le troisième, 1. À chacun selon sa capacité. Et il partit aussitôt. Celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et le fit valoir, et il en gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre, il cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui en avait reçu 5 s'approcha et en apportant 5 autres talents. Et le Seigneur, et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, en voici que j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents, s'approcha ainsi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'en avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu étais un homme dur, qui moissonne où tu ne sèmes pas, que tu amasses où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talon et donnez-le à celui qui en a 10, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a, et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors j'avoue que c'est une parabole un petit peu particulière, mais cette parabole illustre bien la fidélité, et on va regarder, si vous voulez bien, ensemble, cet aspect de la fidélité. Tous ont reçu quelque chose. Tous. Il y en a un qui a reçu 5, il y en a un qui a reçu 2, et il y en a un qui a reçu 1. Tous ont reçu quelque chose. Et je pense que quand on regarde ce genre de parabole, eh bien cette parabole illustre le royaume des cieux. C'est-à-dire que quand on la lit, quand on la regarde, on doit l'illustrer par rapport au royaume des cieux. C'est-à-dire dans le royaume, le Seigneur nous prépare, c'est vrai, une place, mais en même temps, il nous prépare une responsabilité. Et cette responsabilité, elle est déjà énoncée ici. Nous avons dans ce passage 4 vérités. On va les regarder ensemble, si vous voulez bien. Première vérité, c'est que Dieu donne à chacun un don différent. Un 5, un 2 et un 1. C'est pas compliqué. Faut pas faire l'ENA pour calculer que 1 a reçu 5, 1 a reçu 2 et l'autre a reçu 1. Ça, c'est la première chose que nous devons constater. Dieu vous a donné peut-être 5, peut-être 2, peut-être 1. Il vous a tous donné quelque chose. Que vous l'entendiez, que vous le refusiez, que vous l'acceptiez dans votre tête ou que vous ne l'acceptiez pas dans votre tête, Dieu vous a donné quelque chose. Ça, c'est la première vérité que nous avons dans cette parabole. Deuxième vérité, c'est que davantage de responsabilité est une bonne chose. Aujourd'hui, on fuit les responsabilités, on n'aime pas les responsabilités. Et quand on nous en donne, bien souvent, c'est sur certaines conditions. Mais ici, vous constatez qu'il n'y a aucune condition. Et que la responsabilité des personnes qui ont reçu le talent, c'était de les faire fructifier. C'était la seule responsabilité que Dieu leur a demandé, c'était de les faire fructifier. Un en a reçu 5, il les a fructifiés, il en a gagné 10. L'autre en a reçu 2, il les a fructifiés, il en a eu 2 autres, donc ça fait 4. Et puis vous en avez un qui en a reçu 1, alors lui, très malin. Lui, c'est le plus malin de tous. Je ne sais pas ce que vous auriez fait, vous. Il est allé cacher son denier dans son jardin. Il a creusé un trou. Ça me fait penser toujours, vous savez, à Pinocchio. Vous savez le film de Pinocchio? Quand les méchants sont venus lui dire, viens, va planter ton argent, ça va pousser quelque chose. Et il est allé, lui, le cacher, son denier. Il est allé le cacher. Mais la vérité qui ressort de ça, c'est que celui qui a reçu le 1 denier, eh bien, le Seigneur lui dit que c'est un paresseux, c'est un mauvais, un méchant, et en même temps, il va être puni de la part de Dieu. Ça, c'est la troisième vérité que vous avez dans ce texte. Et puis la quatrième vérité, c'est que ceux qui investissent reçoivent davantage en retour. La question que je me suis souvent posée avec cette... pourquoi le Seigneur n'a pas donné le talent à celui qui n'avait que 2, enfin, qui a multiplié 4. Il aurait pu donner le talent à celui-là, puisqu'il en avait moins. Non, il a donné à celui qui en avait le plus. Ça, c'est pas mon problème. C'est le choix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors maintenant, regardons ensemble, j'ai quelques minutes encore, regardons ensemble dans les détails ces 4 vérités, si vous voulez bien. La première vérité, c'est que Dieu donne à chacun un don différent. Il donna cinq talents à l'un, deux à l'autre, et un au troisième, à chacun selon sa capacité. Dans la parabole, certaines personnes reçoivent beaucoup, d'autres un peu moins. Certaines personnes pensent que Dieu va donner plus de talents à celui qui a le plus de capacité. Et malheureusement, c'est ce que nous avons, nous, dans notre tête, bien souvent, on a des similarités. Ah, je ne suis pas capable. Je suis quelqu'un d'incapable. Je n'ai pas fait l'ENA, moi. Donc on ne peut pas me proposer des choses à moi parce que je n'ai pas fait des études. Mais voyez-vous, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu n'a pas dit, parce que tu as fait l'ENA, parce que tu as fait de grandes études, parce que tu as été ingénieur, à un moment donné, je vais te donner plus de capacité à toi. Avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Dieu peut faire d'un simple berger un roi. C'est dans la Bible que nous voyons cette histoire. C'est l'histoire de David. Dieu a fait d'un simple berger, il en a fait un roi. Et voyez-vous, bien souvent, nos idées arrêtées dans notre esprit, c'est Dieu va donner des talents à ceux qui ont le plus de capacités. Ah, si ça pouvait être vrai. Dans notre église, il y aurait beaucoup d'ingénieurs, de maîtres d'œuvre, je ne sais pas, des personnes avec de grandes capacités. Mais bien souvent, ces gens-là ne sont pas dans nos églises. Il y en a, Dieu merci, il y en a. Mais bien souvent, ce sont des gens qui fuient les églises. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas un cœur selon Dieu. David avait un cœur selon Dieu. Et Dieu lui a donné à un moment donné le talent, le don pour être un roi en Israël. Voyez-vous, ce n'est pas les capacités qui sont là pour nous donner un don. Dieu ne nous regarde pas selon nos capacités. Ah, si j'avais su, j'aurais donné ce don à un tel. Si je pensais que j'aurais donné ce don à lui et pas à elle ou pas à l'autre. Non, non, Dieu ne fonctionne pas comme cela. La seule chose que je constate dans cette parabole, c'est qu'il y en a un qui en a reçu cinq, l'autre en a reçu deux, et il y en a un qui en a reçu un. C'est la seule chose que je constate dans cette parabole. Donc la question, c'est qu'est-ce que vous allez faire du don que Dieu vous a donné? Deuxième vérité, davantage de responsabilité est une bonne chose. Toujours dans le texte, le verset 21 et 23. C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Une des questions qu'on me pose souvent, depuis que je suis responsable d'église, qu'est-ce qu'on va faire dans l'éternité ? Alors là, je me suis souvent même posé cette question. Qu'est-ce que je vais faire dans l'éternité avec le Seigneur ? En tout cas, la parabole, celle-là, me dit que Dieu va me donner des responsabilités. C'est-à-dire que ce que j'aurai acquis sur le ciel, pardon, ici-bas, sur cette terre, quand je vais aller dans le ciel, il va dire, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je vais t'établir sur beaucoup. Donc, il faut compter dans le ciel que Dieu va nous donner des récompenses, des couronnes. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Que j'en reçoive une, dix ou vingt, j'en sais rien. C'est quand on sera dans le ciel qu'on verra ce que le Seigneur va nous dire de faire à un moment donné. Mais à un moment donné, notre responsabilité, c'est de savoir gérer ce que Dieu nous donne ici-bas, sur cette terre. Pas ce qu'on va faire dans le ciel. La question, c'est souvent, c'est qu'est-ce qui se passe dans le ciel ? Non, non. Qu'est-ce qui se passe ici, ici-bas, sur cette terre, avec ce que Dieu m'a donné comme responsabilité de le faire ? Voilà la question qu'on devrait se poser. On devrait arrêter de se poser la question qu'est-ce qui va se passer dans le ciel ? Parce que si vous vous la posez trop, cette question, et que demain le Seigneur vous dit, c'est l'heure de ton départ. C'est aujourd'hui que tu vas me rejoindre. La question c'est, est-ce que vous êtes prêt à partir? demain? Est-ce que vous êtes prêt à partir là dans l'après-midi? Je pense qu'on ne vous êtes pas posé cette question. C'est vrai qu'on aspire à être avec le Dieu dans l'éternité. Mais personne, ce matin, s'est dit, Seigneur, je suis prêt. Tu peux me prendre là aujourd'hui. Je suis prêt pour partir avec toi dans l'éternité. Je pense que vous ne vous êtes jamais posé cette question. Personnellement, je suis un serviteur de Dieu. J'aime le Seigneur. Mais jamais, et Dieu m'est témoin, que jamais je me suis posé la question en me regardant dans la glace, en me peignant pour me préparer pour aller au culte le dimanche matin, jamais je me suis préparé pour l'éternité. Par contre, je me prépare pour un bon barbecue, quand il fait soleil, je me prépare pour un bon repas à midi, je me prépare pour toutes sortes de choses, mais jamais pour l'éternité, n'est-ce pas? Mais en attendant, le Seigneur va nous donner des responsabilités dans le ciel. Ce qu'on va faire ou ce qu'on ne va pas faire, l'essentiel, c'est d'avoir déjà manifesté ici-bas sur la terre de la responsabilité dans ce qu'il nous a donné, avec une attitude humble, d'accord, pas avec une attitude d'orgueil, pas avec une attitude de moi plus que les autres, non, non, une attitude vraiment reconnaissante vis-à-vis du Seigneur. Je donne parce que Dieu m'a déjà donné d'avance. Et je pense que cela doit être compris dans notre être le plus profond. Dieu va nous donner, c'est vrai, des responsabilités. On verra quand on sera dans le ciel ce qu'on fera ou ce qu'on ne fera pas. Imaginez que Dieu vous donne la responsabilité d'être chef de sireur de pompe dans l'éternité. Ah, ici, moi, je ne veux pas cirer les pompes. Hein. Moi, ici, je ne suis pas quelqu'un qui lave les pieds. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas dans ma vocation, ce n'est pas dans mon métier, ce n'est pas les choses que j'aime faire. Mais imaginez dans le ciel que le Seigneur vous dise, tu vas être le chef des sireurs de pompe. Je ne sais pas ce qui va se passer dans l'éternité. Bien souvent, moi-même, je me pose la question. Est-ce qu'on aura des ailes? Est-ce qu'on sera blanc, noir, violet, jaune? Est-ce qu'on va ressembler à des anges? C'est vrai que la Bible dit certaines choses. J'ai hâte d'y être. Surtout aux noces de l'agneau, au repas que le Seigneur m'attend. Oui, j'ai hâte d'y être. J'ai hâte même d'être le responsable du banquet. Pas de problème, pas de problème.
Il y aura des pâtes.
Il y aura sûrement des pâtes, sûrement. Mais la Bible nous dit plein de choses. Quand on sera dans une cité céleste, avec des rues pavées d'or, j'imagine dans ma tête. Des bateaux, des bijoux en or, et des rues pavées d'or, des portes de diamants, des portes de saphir. Enfin bon, c'est ce que c'est une bague, c'est ce que c'est un saphir, mais des portes. Enfin, on va arrêter là. On va revenir sur terre quelques instants pour regarder ce que le Seigneur va nous dire. Troisième vérité qui se trouve dans ce passage. Ceux qui sont paresseux et qui n'exercent pas le don seront punis de la part de Dieu. On a du mal à l'entendre, cette parole. On a du mal à l'entendre. Mais voilà ce que le Seigneur nous dit. Ôte-lui donc le talent et donne-le à celui qui en a 10. Et le serviteur inutile, jette-le dans les ténèbres, dehors, et il y aura des pleurs et des grincements dedans. C'est pas moi qui le dis. Si vous êtes un paresseux et un serviteur inutile, voilà ce que le Seigneur vous dit dans sa parole. Et je pense que là, nous devons bien prendre compte de la chose. Le serviteur avait un talent. Il aurait pu aller au banquier. C'est logique. Hein? Je ne sais pas si vous avez de l'argent de trop à la maison. Avant, on le mettait sous le lit ou dans les patelins, on disait. Maintenant, il vaut mieux le mettre à la banque, ça rapporte un peu, même si ça rapporte que 0,75, ou d'autres intérêts quand on en a. quand on en a, autant le mettre à la banque, n'est-ce pas? Ça rapporte un petit peu de quelque chose, quand on en a. Parce que bien souvent, on n'en a pas beaucoup. Mais bon, quand on en a, ça rapporte hein, une banque, vous le vouliez ou pas. C'était logique, n'est-ce pas? Et au lieu de l'enterrer dans son jardin, ben, le maître lui dit, mais tu aurais dû l'apporter à la banque, et au moins ça m'aurait rapporté 0,75. Mais ça m'aurait rapporté 0,75. Il n'a rien fait. Le maître lui dit qu'il a été un paresseux, un mauvais. C'est des paroles, n'est-ce pas, qu'on entend, n'aime pas entendre, surtout du grand maître dans le Créateur qui nous dit que parfois on est des paresseux, des mauvais, dans notre attitude vis-à-vis de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça mérite un peu parfois de la discipline, n'est-ce pas, de notre part, en tant qu'enfant de Dieu. Ça mérite de notre part un intérêt par rapport à ce que Dieu nous a donné. Quatrième vérité, et c'est la dernière, seuls ceux qui investissent reçoivent des intérêts. Si vous n'investissez pas pour le Seigneur, vous ne recevrez pas des intérêts. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Si vous n'investissez pas pour le Seigneur, vous ne recevrez pas des intérêts. Donc, vous devez investir pour le Seigneur. Vous devez avoir la foi, vous devez croire que Dieu, s'il vous a donné un don, c'est que cet investissement que vous faites, c'est pour l'éternité. C'est pas pour vous, c'est pour l'éternité. C'est pas pour être vu par l'Église, c'est pas pour être vu par le monde, c'est pas pour être vu par les gens qui vous entourent. Non, c'est pour Dieu que vous avez, c'est Dieu que vous avez glorifié. C'est pas votre personne personnelle, ni les personnes qui vous entourent. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Ça nous donne, n'est-ce pas, à réfléchir. Depuis quelque temps, vous avez plein de tracteurs qui sont sur la route, qui s'en vont au champ. Ils vont cultiver. Et les fermiers, vous savez, en Seine-et-Marne, quand ils mettent une graine dans le sol, leur but, c'est qu'elle pousse, hein. Et ils savent qu'au mois de juillet, ils pourront récolter. Il n'y a aucun paysan de la Seine-et-Marne, enfin, j'en connais pas personnellement, mais il n'y a aucun paysan en Seine-et-Marne qui plante dans un but de mettre de n'avoir aucune récolte. Aucun. J'en connais aucun. À mon avis, il n'y aurait personne, il n'y aurait plus de paysans en Seine-et-Marne. On nous disait il y a quelques années que la Seine-et-Marne était le grenier de la France, parce qu'il y avait beaucoup de terrain ici pour faire de l'agriculture. Mais aucun paysan en Seine-et-Marne ne plante une graine dans un but de recueillir zéro. Aucun. Ils ont la foi, ils font confiance qu'à un moment donné, il y a de l'eau qui va tomber sur la graine. Ils font confiance, mais qu'ils le veuillent ou pas, qu'ils ont la foi ou pas, ils font confiance qu'à un moment donné, la graine qu'ils ont mis dans le sol, ça va pousser. Ils font confiance. Est-ce que nous faisons confiance comme les paysans de la Seine-et-Marne? Voilà la question. Voilà la question que vous devriez vous poser. Est-ce que vous faites confiance comme les fermiers de la Seine-et-Marne? Dieu vous a donné peut-être 5. Dieu peut-être vous a donné 2. Dieu peut-être vous a donné 1. Qu'est-ce que vous allez en faire? Qu'est-ce que vous allez en faire? Voilà ce que Swindoll, un commentateur de la Bible, dit par rapport au talent. Ne vous attendez pas à ce que la sagesse entre dans votre vie comme un gros morceau de rocher sur un tapis volant. J'imagine l'illustration. Hein, Seigneur, donne-moi de la sagesse. Donc la sagesse va arriver sur un gros tapis volant, sur un gros rocher. Bon, ça c'est juste l'illustration. Je passe cette illustration. Cela ne se fait pas de cette façon. Elle n'arrive pas en sonnant de la trompette. Elle n'est pas non plus distribuée comme une ordonnance par-dessus le comptoir. La sagesse vient de Dieu, d'une manière intime, comme un dérivé de bonnes décisions, de réactions justes et de l'application des principes spirituels aux circonstances quotidiennes. La sagesse vient non pas d'avoir essayé de faire de grandes choses pour Dieu, mais davantage d'avoir été fidèle dans les tâches petites et obscures que peu de gens peuvent voir. J'aime beaucoup cela. Parce que des fois on se dit, Seigneur, donne-moi de la sagesse. Et puis, ouais, ben donne-la-moi cette sagesse, Seigneur. Et on insiste. Ouais, mais bien souvent, si le Seigneur ne nous la donne pas, c'est que peut-être on ne la mérite pas, la sagesse de Dieu. Peut-être que notre cœur n'est pas prêt à la sagesse de Dieu dans notre cœur. Je pense qu'on doit prendre pour le Seigneur de bonnes décisions, d'être déjà fidèle avec ce que le Seigneur nous donne dans notre quotidien. Oui, la sagesse de Dieu peut être là, et je reviens à ces trois enfants. Allez les voir. Vous avez l'occasion, l'opportunité de dire à ces trois enfants, tu as fait une promesse publique. Alors, vous en avez un qui a tenu parole assez rapidement, c'est pas bien? Waouh! Je bénis le Seigneur pour ce jeune. Vraiment, il a rendu vite ce qu'il a promis. Hein. Mais les deux autres, hein, allez les voir. Hein. Tu as fait une promesse publique devant le Seigneur. Hein. Il va falloir que tu promettes. Je crois qu'il a donné pour les orphelins, n'est-ce pas? Et l'autre, il a promis pour
les
pauvres. Allez lui rappeler. Ces 2 euros ne doivent pas servir à acheter des bonbons. Allez leur dire, hein, à ces 2 enfants. Enfin, Fabienne n'allait pas lui dire ce qu'il a donné. Il a donné. Il a réglé son problème. Il a donné. Et les deux autres. Allez leur rappeler, hein, ce qu'ils ont fait comme promesse publique devant le Seigneur. Alors, nous formulons toutes sortes de promesses. Parfois devant le Seigneur. Et en début d'année, on a fait des promesses de foi. La question, c'est est-ce que nous tenons nos promesses? On a du mal parfois à les tenir, n'est-ce pas? Pour dire la vérité, la vie prend tellement le dessus parfois. Mais soyez fidèles dans les petites choses que Dieu vous confie. Et un jour, le Seigneur vous récompensera dans le ciel. Croyez-moi, Dieu est fidèle. Dieu n'est pas un Dieu infidèle. Quand il dit certaines choses dans sa parole, ce n'est pas un Dieu paresseux. Ce n'est pas un Dieu mauvais, comme parfois certaines personnes le pensent. Non, c'est un Dieu fidèle. Dans le ciel, il vous récompensera pour ce que vous aurez fait ici, pour lui. Alors pensons-y, quand nous faisons des promesses publiques devant le Seigneur. Pensons-y. Amen.